Richard entra dans le monde, sans guide, sans appui, triste et solitaire. Les salons les moins accessibles s'ouvrirent devant le nom de son père, qu'il portait d'ailleurs en digne héritier d'une race de preux. Il était beau, silencieux, grave et fier. Élevé au fond des bois, s'il n'avait point cette science banale que donnent l'usage et le frottement de la vie mondaine, il suppléait par une distinction naturelle et par une instinctive élégance qui révélait à coup sûr la noblesse de son origine. Son titre et sa fortune, son air jeune et souffrant, son front pâle et chargé d'ennui, la réservent un peu hautaine de son attitude et de ses manières, tout enfin, jusqu'à la sombre sévérité de son costume, le signalèrent aussitôt à la bienveillance de plusieurs et à la curiosité de tous. Ce qui le frappa d'abord, ce fut de voir quel souvenir auguste et vénéré le comte de Beaumeillan avait laissé parmi les hommes. Quels hommages réveillaient son nom. Quelle sympathie soudaine ce nom faisait lever dans la foule. On n'enseigna point à Richard le respect qu'il devait à la mémoire de son père. Ce respect était dans son cœur, mais froid et compassé, comme tout sentiment qu'impose le devoir et que n'exalte point la tendresse. Dès son plus bas âge, Richard n'avait vu dans le comte de Beaumeillan qu'un vieillard soucieux et morose. Il ne se souvenait pas d'avoir surpris sur sa bouche un sourire, dans ses yeux un regard caressant. Le comte aimait pourtant son fils, mais, empoisonné dans sa source, cet amour avait manqué d'expansion, de grâce et de charme. En grandissant, Richard l'avait sourdement accusé de l'exil de sa mère. Faut-il le dire? Plus d'une fois, il avait senti près de lui, remuer dans son sein, quelque chose de pareil à la haine qu'il s'était aussitôt empressé d'étouffer, mais sans se demander jamais si ces impassibles dehors ne cachaient pas une âme profondément blessée qui dévorait son sang et ses larmes. Pitié, tendresse, amour, tout avait été pour l'absente. Soit qu'il eût compromis ce qui se passait dans le cœur du jeune homme, et qu'il fût trop fier pour se plaindre et pour se justifier, soit qu'il n'eût fait qu'obéir aux dispositions d'un esprit chagrin et d'un caractère taciturne, M. de Beaumeillan avait toujours négligé de vaincre les répugnances de Richard et d'établir entre son fils et lui des rapports plus affectueux et plus intimes. Ainsi, quoique respirant sous le même toit, tous deux avaient vécu tellement séparés l'un de l'autre que Richard, en entrant dans le monde, ne savait de la vie de son père que ce qu'il en avait vu lui-même. Pouvait-il soupçonner que cette existence, qu'il voyait tristement s'éteindre dans les ennuis de la solitude et de l'abandon, recélât un passé glorieux, que cette destinée si sombre à son déclin eût été belle à son aurore? Jamais le comte ne l'avait entretenu des grandes choses de sa jeunesse, jamais la comtesse ne s'était parée de la gloire de son époux. Ce fut le monde qui apprit à Richard quel homme il avait eu pour père. Le comte de Beaumeillan avait été un de ses loyaux et fidèles serviteurs dont la légitimité aura pour toujours emporté le type chevaleresque dans un des plis de son linceul. Au premier cri poussé par la monarchie aux abois, il avait tiré son épée et était revenu dans le château de ses ancêtres qu'après avoir vu ses maîtres légitimes paisiblement assis sur le trône de leurs aïeux. Il avait partagé les labeurs et la gloire d'une lutte féconde en héros. Il avait été grand sur une terre de géants. Lors de l'arrivée de Richard à Paris, la révolution de 1830 venait d'ébranler le sol de la Vendée, d'en remuer les cendres, d'en raviver les souvenirs. Sur la rive gauche de la Seine, dans ce monde où l'on garde encore le culte du malheur et de la religion de l'exil, Richard entra, portant, sans s'en douter, comme une étoile au front, la vieille renommée paternelle. Sa première visite fut au marquis de Penhoeddic. Il savait que les Penhoeddic s'étaient alliés autrefois aux Beaumayans et qu'une étroite amitié avait de tout temps existé entre les deux familles. En effet, à peine eut-on annoncé le jeune comte, qu'à ce nom le marquis se leva. Il pressa Richard sur son cœur et le tint longtemps embrassé. La marquise lui tendit une main blanche et sèche qu'il porta respectueusement à ses lèvres. Rangés auprès de leur mère, Mademoiselle de Penhoeddic, trois fleurs de grâce et de beauté, écloses sur la même tige dans le jardin de l'aristocratie, l'observaient avec intérêt, tandis que quelques personnes qui se trouvaient réunies dans le salon de la marquise s'empressaient autour de lui, car toutes avaient connu le comte de Beauveillant, son père. Après les premières effusions, la conversation s'engagea, et l'on peut juger de l'étonnement de Richard en se voyant tout d'un coup, et comme par enchantement, illuminé par le reflet d'une renommée qu'il n'avait même pas pressentie jusqu'alors. Ce fut pour lui comme un lever de soleil sans aube et sans aurore. Le comte de Beaumeillan et le marquis de Penhoeddic avaient été compagnons d'armes. Ils avaient combattu sous le même drapeau, partagé les mêmes dangers, mêlé leur sang sur les mêmes champs de bataille. Le marquis rappela les grandes choses qu'il avait accomplies le comte. Il n'oublia point qu'à l'armée vendéenne, on l'avait surnommé, comme Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Il cita plus d'un trait qui fit monter au front du jeune homme la rougeur d'un noble et saint orgueil. Comme il achevait de raconter ce qu'avait dû deux fois la vie au courage et au dévouement de l'ami qu'il appelait son frère, on annonça M. de Kervégan. Le marquis présenta tout d'abord au nouveau venu le jeune Beaumeillant. À ce nom, M. de Kervégan embrassa Richard avec une brusque tendresse qui tenait à la fois du soldat et du gentilhomme. « Oh, si vous avez le cœur de votre père, lui dit-il, vous serez Richard, cœur de lion. » Bientôt, l'entretien devint général. Chacun apporta son offrande à la mémoire du guerrier breton. Il eut puis une révélation glorieuse et le comte de Beaumeillan fut vengé en ce jour de l'oubli qui avait rongé comme une rouille la dernière moitié de son existence. À la fois surpris et charmé, Richard écoutait, honteux en même temps d'avoir jusqu'à présent ignoré cette gloire. Lui, cependant, dont la tête, l'esprit et le cœur n'étaient remplis que d'une seule image et d'une pensée unique, il ne tarda pas à remarquer que le nom de sa mère était, pour ainsi dire, exilé de la conversation, et qu'on semblait même éviter toute allusion à son souvenir. Nous l'avons dit, ce jeune homme ne savait rien du monde. Il ignorait de quelle réprobation la société frappe certaines fautes, combien elle est impitoyable à tout ce qui vit en dehors de sa loi. Il n'avait jamais vu dans sa mère qu'une tendre victime, digne de la pitié de tous, et ne supposait pas, d'ailleurs, que le monde fût dans le secret de ses égarements. Il essaya donc, plus d'une fois, de mêler à l'entretien le nom de Madame de Beaumeillan, mais chaque fois qu'il le tenta, ce nom n'éveilla point d'écho et tomba silencieusement sans être relevé par personne. Richard se sentit pris d'un sourd malaise, d'une vague inquiétude, qu'il subit d'abord sans chercher à s'en rendre compte. Seulement, plus il entendait exalter le père, plus il éprouvait le besoin de venger sa mère de l'indifférence qui pesait sur elle. Il y avait en lui deux orgueils, l'un qui triomphait, l'autre qui souffrait, d'autant plus vulnérable celui-ci qu'il réunissait toutes les susceptibilités de l'amour et de la tendresse. Il arriva que M. le Kervégan, qui voyant Richard vêtu de noir des pieds à la tête, avait pensé que ce jeune homme portait le deuil de son père, l'interrogea sur la perte qu'il croyait récente, car les amis du comte de Beaumeillon avaient longtemps ignoré sa mort, et M. de Kervégan venait d'en recevoir la première nouvelle. « Mon père est mort depuis 5 ans, répondit Richard. Le deuil que je porte, ajouta-t-il avec un fier sentiment de douleur, je le porterai durant ma vie entière. C'est le deuil de ma mère, comtesse de Beaumeillon. » Il tomba sur ces mots un silence de glace. « Monsieur, dit enfin la marquise en s'adressant à Richard, Dieu devait à votre noble père la consolation de partir d'ici-bas sans avoir vu le roi, notre maître, reprendre le chemin de l'exil. Nous le pleurons, ce n'est pas à nous de le plaindre. » À ces mots, le jeune gentilhomme se leva froidement. Il venait de comprendre que la comtesse de Beaumeillon était jugé et condamné. Il avait appris en même temps et du même coup la gloire et la honte de sa famille. Richard retrouva partout l'accueil qu'il avait reçu à l'hôtel de Penwédic. Partout, il vit les bienveillances les plus flatteuses et les sympathies les plus honorables accourir et s'empresser autour de son nom. Il vit partout rayonner la mémoire du comte, tandis que celle de la comtesse restait ensevelie dans la nuit et dans le silence. Loin d'en être atteint, son amour s'en accrut. Mieux, il comprit que le souvenir de sa mère était frappé d'interdit. Plus il la plaça haut dans son généreux cœur. Le bien qu'il entendait dire constamment de son père avait fini par l'irriter. Que de fois, lorsqu'il revenait à sa solitude, blessé au plus sensible endroit de son être, il évoqua l'ombre adorée pour la couvrir de ses pleurs et de ses baisers. Que de fois il ouvrit son cœur saignant à sa chair malheureuse proscrite. Que de fois, pour la venger du dédain et du mépris des hommes, il répandit sur elle des trésors d'indulgence et de bénédiction. Richard pardonnait et s'exaltait dans sa tendresse, comme s'il eût compris que sa destinée crierait d'elle-même assez haut contre la mère qu'il avait faite si rude et si lourde à porter. Déjà l'expiation commençait. Jusqu'alors, Richard n'avait souffert que dans son amour. Au contact du monde, sa blessure s'envenima. Ses susceptibilités s'aigrirent. Son imagination se frappa. Le monde lui devint un enfer qu'il peupla de sombres fantômes. Une défiance maladive égara ses perceptions. Sous le coup d'une préoccupation acharnée, la réalité prit à ses yeux ses formes terribles et des proportions menaçantes. Le déshonneur des mères et aux fils un pesant fardeau. Richard arriva bientôt à croire qu'il portait sur son front le secret qui le consumait. Aux regards les plus inoffensifs, il prêtait des intentions offensantes. Son nom prononcé dans la foule le faisait tressaillir de terreur et de honte. Les paroles prononcées près de lui sifflaient comme des serpents à ses oreilles. Il se blessait aux discours les plus innocents. Il se déchirait au plus bienveillant sourire. Il ne voyait partout qu'allusions cruelles et railleuses. Exaltait-on devant lui la mémoire du comte de Beaumeillon? Ce n'était qu'en vue d'outrager la mémoire de la comtesse. Il lui semblait qu'on se taisait à son approche, qu'on l'observait à la dérobée, que tous les groupes s'entretenaient mystérieusement des fautes et des égarements de sa mère. Ainsi, jeune et beau, joignant aux qualités les plus précieuses du cœur et de l'esprit le double privilège de la naissance et de la fortune, Richard vit comme un printemps sans fleurs et sans soleil s'achever dans l'ennui et dans la tristesse le pâle matin de sa vie. Il n'eut pas même la ressource d'épancher ses peines dans un sein fraternel. Il n'avait point d'amis. Naturellement fier et réservé, élevé solitairement, habitué de bonne heure aux émotions silencieuses, la défiance avait achevé de le renfermer en lui-même. C'était d'ailleurs une arme trop délicate et trop exquise pour rien laisser voir du mal qu'elle endurait. Il est telle douleur qui ne sort jamais d'une noble poitrine. Ce qui le soutenait dans cette dure épreuve, qui n'avait que Dieu pour confident et pour témoin, ce qui lui faisait prendre sa sombre destinée en patience, ce qui le retenait dans ce monde où ses pieds meurtris saignaient à chaque pas, c'était la haine. Jamais au plus fort de ses amertumes, il avait accusé sa mère. Toujours il s'était dit que, tombée entre des mains infâmes, elle avait été moins coupable que malheureuse. Il pleurait sur elle et ne l'accusait pas. Mais l'homme qu'il avait perdu, Richard le haïssait d'une haine implacable et profonde. À quelle fin souhaitait-il de le découvrir et de le rencontrer? Il ne le savait, ne se le demandait même pas. Ses idées de vengeance n'avaient rien d'arrêté ni de fixe. Mais il le haïssait dans l'âme et, pour se trouver une fois seulement, face à face avec lui, Richard eût volontiers donné sa vie entière. Mais où le prendre? Où le chercher? En arrivant à Paris, Richard s'était imaginé qu'il le reconnaîtrait entre tous, cet homme qu'il ne connaissait pas. Il lui semblait que des indices certains devaient tout d'abord le lui signaler dans la foule. Partout, à chaque instant, il s'était attendu à le voir apparaître. Il s'en était fié à ses instincts. Il avait compté sur une voix infaillible qui tout d'un coup lui crierait « Le voici! Voici le bourreau de ta mère !» Enfin, au candeur du jeune âge, il s'était dit que le mépris général le lui indiquerait à coup sûr, qu'il entendrait parler sans doute d'un homme perdu de mœurs et de réputation, se faisant un jeu de l'honneur des familles, et que cet homme, sans cœur et sans âme, serait précisément celui qu'appelait sa colère. Aucune de ces prévisions ne se réalisa. Parmi toutes les physionomies effacées dont se composent les réunions du monde, Richard n'en trouva pas une seule qui répondit au type qu'il s'était forgé. Le mépris général lui indiqua des parjures et des faussaires, des traîtres et des apostats, mais non pas en amour, terrain neutre sur lequel les hommes peuvent tout oser sans encourir la réprobation qui frappe impitoyablement leurs victimes. Richard chercha donc vainement sa proie, là d'errer comme une âme en peine dans un monde où tout le froissait. Il se préparait soit à voyager, soit à retourner dans son château de Bretagne, lorsqu'un incident, qui devait se présenter tôt ou tard, changea subitement le cours de sa destinée. Un soir, qu'il se trouvait dans un salon du faubourg Saint-Germain, en passant près d'un groupe de jeunes gens qui ne le savaient pas si près, il entendit outrager sa mère. Le lendemain, une rencontre eut lieu au bois de Boulogne. Richard reçut un coup d'épée dans la poitrine. Comme les témoins s'empressaient autour de lui, une calèche découverte s'arrêta à l'entrée de l'allée où venait de se vider l'affaire. C'était la voiture d'un gentilhomme que Richard avait vu çà et là dans le monde et vers lequel il s'était senti naturellement attiré, malgré la différence de leurs âges. Propriétaire à Auteuil d'un cottage qu'il habitait durant la belle saison, M. de la Tremblay, c'était son nom, avait l'habitude de faire chaque matin un tour de bois ou passe sur chevaux. Bien qu'il eût franchi depuis quelques années le seuil de la virilité, il était jeune encore. Élégant et sévère dans son maintien et dans son costume, laissant lire sur son front la dignité de son caractère, c'était un de ces hommes qui vous impose en vous regardant et vous honore en vous donnant la main. Il mit pied à terre, s'approcha du blessé et parut péniblement surpris de reconnaître M. de Beaumeillan, étendu sans vie sur le gazon de la contre-allée. Après l'avoir saigné sur place, le chirurgien qui avait assisté au combat, ayant déclaré que ce jeune homme n'était pas en état de supporter le mouvement de la voiture et la fatigue du retour à la ville, M. de la Tremblay s'empressa d'offrir sa maison d'Auteuil où l'on porta Richard sur un lit de feuillage. La blessure était grave. Tant que dura le danger, M. de la Tremblay veilla assidûment au chevet de son hôte. La convalescence fut longue. Richard en passa les premiers jours à Auteuil. Il y revint fréquemment après sa guérison. Quoique ces deux hommes ne fussent pas au même point de la vie, il s'établit entre eux une intimité sérieuse, fondée sur l'estime mutuelle et sur des sympathies réciproques. Pour la première fois, Richard trouvait à échanger sans crainte et sans défiance ses idées, ses sentiments. M. de la Tremblay ne toucha que d'une main discrète et délicate aux peines de son jeune ami. Il respecta le secret de sa destinée et n'essaya point d'en soulever le voile. Mais il versa sur ce cœur souffrant le baume salutaire d'une saine philosophie. Ils avaient, le soir, sous les frais ombrages, de longs entretiens qui exerçaient sur l'esprit de Richard de bienfaisantes influences et le ramenaient insensiblement à une appréciation plus sage et plus vraie des choses d'ici-bas. M. de la Tremblay était un de ces natures d'élite que l'expérience féconde et que la douleur enrichit. Chez lui, la faculté de sentir et d'aimer avait survécu aux illusions de la jeunesse. Il n'avait point ce scepticisme railleur que dans nos organisations d'une trempe moins généreuse, la science amère de l'humanité. Il releva l'âme abattue de Richard, il la doubla, pour ainsi dire, de la sienne, et lui ouvrit des horizons que M. de Beaumeillan n'avait pas jusqu'alors entrevus. Il l'entretenait gravement, lui conseillait d'occuper sa vie, de développer son intelligence et d'en diriger l'activité vers un but élevé et honnête. « Montrez-vous digne, lui disait-il parfois, du nom que vous a laissé votre père. Continuez vos aïeux, noblesse oblige. » Je sais trop bien que notre épopée est close, et qu'il semble que la vieille aristocratie n'ait plus qu'à se croiser les bras et à regarder du haut de ses châteaux déserts passer le flot bourbeux d'une époque de prose et d'argent. Mais, quoi qu'on dise et qu'on fasse, vos noms pèseront toujours dans les destinées de la France. Tout homme a d'ailleurs sa mesure à donner. À l'œuvre donc, allez, ne laissez pas se consumer dans l'oisiveté les facultés que Dieu a mises en vous. Ne vivez plus, ainsi que vous l'avez fait jusqu'à présent, dans la contemplation d'une douleur que j'ignore, que je respecte, mais qui ne doit pas, quelle qu'elle soit, vous détourner de vos devoirs. Cependant, la santé de Richard était loin d'être entièrement rétablie. Aux approches de l'hiver, les médecins lui ayant conseillé l'air du midi, il se disposa à partir pour Rome. Monsieur de la Tremblay, qui l'alla voir la veille de son départ, l'approuva fort dans ses projets de voyage. Il regretta seulement de ne pouvoir l'accompagner. Des liens sacrés le retenaient. Sa mère, en mourant, lui avait laissé le soin d'une jeune sœur qui n'avait d'autre appui ni d'autre protection que son frère. Son éducation, qu'il surveillait à Paris depuis quelques années, était sur le point de s'achever et tous deux devaient partir incessamment pour leur terre en Dauphiné. « Je compte, monsieur, ajouta M. de la Tremblay, qu'à votre retour en France, vous viendrez nous y voir. » Richard en prit l'engagement. Ils se séparèrent après s'être serré la main cordialement. La solitude est un mauvais compagnon de route. Toutefois, les débuts du voyage ne furent pas sans quelque charme. Richard avait tant souffert de la gêne et de la contrainte que l'héritage maternel lui imposait vis-à-vis du monde, qu'il quitta Paris avec un sentiment de joie sauvage, pareil à celle que doit éprouver le prisonnier qui voit tomber ses fers. Une fois hors de France, l'air lui sembla plus pur et plus léger. Affranchi des lourdes préoccupations qui l'avaient si longtemps obsédé, il allait libre et presque joyeux. Là, du moins, sur la terre étrangère, il n'avait point à redouter les curiosités blessantes, les traces douloureuses, les souvenirs irritants. Il ne craignait plus d'éveiller sous ses pas la honte de sa mère. Il ne tarda pas à subir d'heureuses influences. Le mouvement, la variété des lieux, les accidents de paysage brisèrent le cours de ses pensées, le détournèrent forcément de lui-même. Le spectacle des cimes alpestres éleva son âme, l'agrandit et la détacha des choses de la terre. La contemplation de la nature, tout en exaltant sa douleur, l'épura et la dégagea du levain et de l'amertume qui avaient mêlé le contact des hommes. À Rome, l'amour des arts, le culte du passé, l'étude des poètes se partagèrent ses tournées solitaires. Lorsqu'au printemps il partit pour Florence, il était calme, moins ulcéré, sinon guéri. Mais la fatalité voulut que le poids de sa destinée, un instant soulevé, retomba plus lourd que jamais sur son cœur et acheva de le meurtrir. Un jour qu'il était allé visiter la Vallombreuse à quelques miles de Florence, couché sur le versant du coteau, tandis que le soleil descendait à l'immense horizon, Richard rêvait de sa mère avec tristesse et avec amour, car elle était encore et toujours son unique pensée, sa préoccupation constante. Quand il fut l'heure de regagner la ville, il alla prendre congé des religieux et les remercier de leur franche hospitalité. Avant qu'il s'éloignât, un des frères lui remit un énorme registre sur lequel les visiteurs de la Chartreuse étaient priés d'écrire leurs noms et leurs impressions poétiques. Richard se prit à feuilleter ses archives dont les premières pages remontaient à plus de 10 ans. Pour des milliers de noms obscurs, il s'y trouvait quelques noms célèbres. Quelques pensées gracieuses, quelques vers ingénieux, quelques réflexions profondes, était perdu dans un fouillis de niaiseries et de platitudes. Richard tournait machinalement les feuillets quand, tout à coup, deux noms s'en détachèrent et frappèrent aux yeux comme un double éclair et s'enfoncèrent comme une arme à deux tranchants dans son cœur. Ces deux noms, Évariste et Laurence, écrits l'un près de l'autre sur la même page, renfermaient toute sa destinée. Laurence était le nom de Madame de Beaumeillan. C'était bien Madame de Beauméant, son fils reconnut l'écriture, qui avait déposé là son nom près de celui de son amant. Richard ne put se défendre d'un mouvement de haine et de colère. Après avoir déchiré la page et jeté les morceaux au vent, il s'échappa dans les bois, où son âme éclata en larmes, en sanglots, et pour la première fois en reproches sanglants et terribles. Cette fois, enfin, dans l'égarement de son désespoir, le malheureux accusa sa mère, il la repoussa de son cœur, il l'accabla de son mépris. Puis, honteux de ses emportements, il se jeta sur le gazon et il l'arrosa de ses pleurs en priant l'ombre outragée de lui pardonner des blasphèmes. Mais sa douleur venait d'être mortellement atteinte dans ses illusions les plus chères. Jusqu'à présent, il avait cru que Madame de Beauméant n'avait été que la victime de l'homme qu'il avait perdu. Il commença dès lors à comprendre qu'elle avait été sa complice. Jusqu'à ce jour, il n'avait vu en elle qu'une martyre, et dès lors il entrevit qu'elle avait épuisé les joies de la passion avant d'en subir les tortures, et que c'était à lui qu'était échu le vrai martyr. C'en était fini du voyage. Cette terre où Madame de Beauméant avait promené ses coupables amours devint odieuse à Richard. Son imagination lui offrit partout l'image de sa mère infidèle. Ses pas ne suivaient que des traces brûlantes. Dans les creux des vallées, sur la pente des monts, il voyait partout deux fantômes amoureux qui glissaient, inclinés mollement l'un vers l'autre. Le bruit du vent et le murmure des flots mariaient dans leurs éternels concerts les noms d'Évariste et de Laurence. Les merveilles des arts ne lui parlaient plus que des deux amants qui les avaient admirés dans l'ivresse de leur bonheur et dans la joie que leur folle tendresse. Toute la nature lui dénonçait leurs caresses et leurs baisers. Ils avaient erré le long de ses rivages. Ses flots les avaient bercés sur leur sein d'azur. Ils avaient respiré le parfum de ses orangers. À l'ombre de ses bois, ils avaient mêlé leurs soupirs. Et lui, cependant, il allait seul, le cœur déchiré, le front couvert de honte, recueillant sur sa route les fruits de l'adultère, courbé sous la croix de l'expiation, et lavant de ses larmes les traces de sa mère. Dans l'abîme de tristesse où il venait de retomber, Richard se souvint des soirées d'Auteuil. Résolu à s'ensevelir dans son château de Bretagne, il voulut consacrer d'abord quelques jours à M. de la Tremblay. Le souvenir de ce gentilhomme lui était resté bien avant dans le cœur. Il repassa les monts, traversa la Savoie, et ne s'arrêta qu'à Grenoble, où sa voiture rencontra celle de M. de la Tremblay, que ses affaires amenaient à la ville. En se reconnaissant l'un l'autre, tous deux mirent en même temps pied à terre et s'embrassèrent chaleureusement. M. de la Tremblay retournait le jour même à sa terre. Il conseilla à son jeune ami de laisser sa chaise à Grenoble et lui offrit dans sa calèche une place que Richard accepta. La Tremblay est un vaste domaine situé à quelques lieues de Grenoble, entre Voreppe et Saint-Laurent-du-Pont. Le château, qui en est le centre, et pour ainsi dire le point de ralliement, s'élève à mi-côte et domine la magnifique vallée de l'Isère. On y arrive par de gracieux détours, le long d'une pente insensible, à travers une forêt de trembles qui sont comme les armes parlantes de l'antique maison qu'ils ombragent. Pendant le trajet qu'ils firent en calèche découverte, par une tiède soirée d'automne, M. de la Tremblay interrogea discrètement Richard et s'affligea de le voir au retour plus triste, plus sombre et plus découragé qu'il ne l'était avant son départ. Richard évita de parler de lui. L'Italie défraya la conversation. Au détour du sentier qui mène de Voreppe à Saint-Laurent, ils aperçurent le long des haies une Amazone qui semblait venir à leur rencontre au galop d'un courrier si rapide. « C'est ma sœur !» s'écria M. de la Tremblay avec l'expression de l'orgueil et de la tendresse. Au même instant, la calèche s'arrêta. La jeune fille sauta légèrement à bas de son cheval et s'élança près de son frère qu'elle entoura de ses bras caressants. « Oui, c'est ma sœur, c'est ma chère Pauline !» répéta M. de la Tremblay, tandis qu'il couvrait de baisers le front et les cheveux de la belle enfant qui ne paraissait pas se douter de la présence de Richard. M. de la Tremblay lui ayant présenté M. de Beaumeillan, elle le regarda d'un air curieux. Puis, sans se préoccuper de lui davantage, elle continua d'entretenir tendrement son frère. Richard contemplait d'un air souriant et mélancolique le tableau de ses douces joies. Bien qu'en réalité elle échappât à peine aux grâces naïves de l'enfance, Mademoiselle de la Tremblay n'était déjà plus une enfant. Grande, souple, élancée, la finesse et la délicatesse de ses traits donnaient à son visage l'air d'une fleur épanouie sur une tige longue et flexible. Elle avait la blanche et royale beauté d'Ulysse. On sentait à la voir qu'elle avait dû naître et grandir à l'ombre d'un château féodal. Au repos, elle était grave et fière. L'intelligence rayonnait sur son front et la bonté dans son sourire. Ses cheveux noirs, fins et luisants, se rabattaient sur ses tempes comme deux ailes de corbeau. Ses grands yeux bruns avaient le regard limpide, curieux, doux et sauvage de la biche errant dans les bois. Sous son costume d'Amazone, on eût dit une jeune guerrière, une blanche héroïne des temps chevaleresques. Richard, qui s'était attendu à ne trouver dans la sœur de M. de la Tremblay qu'une petite pensionnaire, observait avec un sentiment d'admiration mêlé de surprise cette charmante créature qui unissait par un rare et précieux privilège à la suavité de la beauté britannique, le calme gravité de la beauté romaine. À la tombée de la nuit, la calèche s'arrêta devant la grille du château. Après avoir installé son hôte dans un pavillon élégant, rempli de livres et de fleurs, et caché comme un nid sous un massif de feuillage, « Monsieur, lui dit Monsieur de la Tremblay, veuillez regarder cette maison comme vôtre. Je compterai au nombre de mes jours heureux les jours que vous consentirez à prendre sous mon toit. » Oh, votre noble et généreuse hospitalité m'est déjà connue, répondit Richard. Mais j'ignorais que vous eussiez pour sœur un ange de grâce et de beauté. Un ange, en effet, ajouta M. de la Tremblay. Parfois, vous me demandiez à Auteuil le secret de ma philosophie. Ce secret, vous le connaissez à cette heure. On ne pensait pas que le sort m'ait fait grâce. J'ai vécu, j'ai souffert. J'ai longtemps, comme vous, désespéré de toute chose. C'est Pauline qui m'a sauvé. C'est elle qui m'a rattaché à l'éternelle loi de l'ordre et du devoir. Elle m'a rajeuni en me rendant meilleur. La fraîcheur de son âme a passé sur mon cœur. J'ai mis ses illusions à la place des miennes. J'ai, pour ainsi dire, reverdi sous ses espérances comme un rameau brisé sous des pousses nouvelles. Elle est un second printemps dans ma vie. Vous l'avez dit, monsieur, c'est un ange, c'est l'ange gardien que nous appelons une sœur. Lorsqu'au bout de quelques jours, M. de Beaumeillan parla de son départ, « Mais pourquoi vouloir nous quitter si tôt ?» lui dit M. de la Tremblay d'un ton de reproche affectueux. Notre hospitalité vous est-elle importune? Votre cœur se sent-il mal à l'aise avec nous? Oh, s'il en est ainsi, partez! Mais si notre affection vous est bonne, et si nulle affaire ne vous presse, restez! Votre présence vous est chère. Pauline, au besoin, mettra ses instances aux miennes, ajoutera-t-il en regardant sa sœur. À cette interpellation, la jeune fille demeura calme, silencieuse, immobile. Mais lorsqu'après avoir résisté faiblement, Richard déclara qu'il resterait quelques jours encore, Pauline tressaillit imperceptiblement, et une légère teinte rosée colora la blancheur de ses joues. Le fait est que Mademoiselle de la Tremblay n'entra pour rien dans la détermination de Richard, et qu'en consentant à prolonger son séjour au château, ce jeune homme était loin de soupçonner que Pauline dût s'en réjouir. C'est à peine s'il avait jusqu'à ce jour échangé quelques paroles avec elle. Chaque fois qu'il l'avait rencontrée dans le parc, elle s'était enfuie à son approche, et M. de Beauséant avait fini par ne plus voir en elle qu'une enfant sauvage, que sa présence effarouchait, et dont il admirait, sans en subir autrement le charme, la beauté fière et la grâce ombrageuse. Cependant, à partir de ce jour, la gazelle s'apprivoisa peu à peu et ne tarda pas à le laisser approcher sans crainte. En se mêlant à l'intimité des deux amis, Mademoiselle de la Tremblay l'embellit d'un nouvel attrait, et les semaines s'écoulèrent sans que Richard songeât à les compter. La saison était belle. Ils l'employèrent en excursion dans le pays. Il n'était pas un coin de cette terre dont Pauline ignora les chroniques et les légendes. Elle les racontait à Richard, tandis qu'ils chevauchaient côte à côte dans les montagnes du Dauphiné, sous le regard protecteur de M. de la Tremblay, qui semblait les envelopper tous deux dans un même sentiment d'orgueil et de tendresse. Ils visitèrent ainsi à plusieurs reprises la Grande Chartreuse, un des plus beaux sites que l'homme puisse admirer, soit que l'hiver y déchaîne les vents et les tempêtes, soit que l'automne en tempère la sévérité par la variété de ses riches couleurs. À chaque pèlerinage, le calme du cloître et le silence du désert descendirent plus avant dans le cœur de Richard. Ce cœur s'ouvrait d'ailleurs à de plus douces influences. M. de Beauséant s'abandonnait au charme, tout nouveau pour lui, d'aimer, de se sentir aimé et de prendre part aux joies d'un intérieur affectueux et paisible. Les chastes délices de la famille se révélaient à lui pour la première fois. Il se reposait enfin des ennuis de sa solitude et des soucis d'une aride douleur, et comme pour l'enchaîner et le retenir sur le seuil, le toit hospitalier se parait chaque jour d'une séduction nouvelle. Cependant, Pauline et Richard se voyaient en toute liberté et en toute innocence. Ils avaient en partage la beauté, l'intelligence et la jeunesse, avec le même sentiment poétique de la nature et de toutes choses. Tout leur souriait, tout les invitait. M. de la Tremblay lui-même paraissait encouragé les muettes sympathies qui les attiraient l'un vers l'autre. Et ce qui devait arriver, arriva. Ces deux enfants s'aimèrent. Chez M. de Beauséant, ce ne fut pas l'œuvre d'un jour. Oh, il avait été trop rudement éprouvé. Il était trop souffrant encore et trop meurtri pour pouvoir se relever et s'épanouir au premier rayon caressant. Le souffle maternel avait en lui desséché la sève et tari l'illusion. Frappé d'une longue stérilité, sa floraison fut lente et maladive. Pour mademoiselle de la Tremblay, elle l'aima sans effort, avec toute la grâce et toute la fraîcheur de ses 16 printemps. Comme de nobles enfants qu'ils étaient, ils s'aimaient sans le savoir et sans se le dire, et M. de la Tremblay était plus savant qu'eux-mêmes dans le secret de leur jeune cœur. Ce fut pendant son séjour à la Tremblay que M. de Beaumeillant reçut la nouvelle de sa ruine à peu près complète. Depuis la mort de son père, l'administration de ses biens avait été singulièrement négligée. Tout entière à la passion, Madame de Beaumeillant ne s'était guère inquiétée de ses soins vulgaires. Tout à sa douleur, Richard s'en était lui-même médiocrement préoccupé. Il apprit un matin que la meilleure partie de sa fortune venait d'être engloutie dans un abîme. Il ne lui restait plus que la terre des Beaumeillants, c'est-à-dire la pauvreté. Monsieur de la Tremblay et sa sœur étaient près de lui lorsqu'il en reçut la nouvelle. Il en fit part à ses amis. « Sommes-nous riches, nous ?» demanda aussitôt Pauline à son frère. « On le dit, » répliqua Monsieur de la Tremblay en souriant. La jeune fille s'échappa pour cacher sa joie. C'est à peine si de son côté M. de la Tremblay parut affecté de la ruine de son ami. Enfin, M. de Beauveillant lui-même reçut secours en gentilhomme, et il est vrai de dire que jamais désastre n'a produit moins d'effet. On touchait à la fin de l'automne. Richard ne partait pas, et M. de la Tremblay laissait vaguement entrevoir que son vœu le plus cher était qu'il ne partît jamais. Bon, il ne s'expliquait pas et ne précisait rien, mais il mêlait M. de la Beauvéant à tous les rêves, à toutes ses espérances, à tous ses projets d'avenir. D'une autre part, Mademoiselle de la Tremblay, qui avait aimé Richard pour sa tristesse, l'adorait pour sa pauvreté, si bien qu'il put penser que sa ruine l'avait enrichi. Mais il était écrit là-haut que ce jeune homme ne toucherait point au bonheur et qu'il porterait jusqu'au bout la peine des égarements qu'il avait déjà si cruellement expiés. À la porte du ciel qui s'ouvrait devant lui, et près de recevoir la couronne de son martyr, l'enfant maudit retomba sur la terre pour achever de s'y briser. Un jour qu'il se trouvait dans la chambre de M. de la Tremblay, il arriva que Richard, en lisant quelques lignes que celui-ci venait d'écrire, se sentit troublé. Pourquoi, il n'aurait pu le dire, mais il pâlit, et son front se couvrit d'une sueur froide. M. de la Tremblay lui dit « Vous souffrez, qu'avez-vous ?» Richard ne savait pas lui-même. À quelque temps de là, il y eut un jour de fête au château. On célébra l'anniversaire de la naissance de Pauline. Le soir, après dîner, M. de la Tremblay entraîna sa sœur sur le perron, et tout d'un coup, comme s'il avait en son pouvoir la baguette enchantée des fées, il fit apparaître dans l'allée du parc une calèche neuve et charmante, attelée de deux chevaux arabes qui vinrent s'arrêter au pied du perron devant le jeune châtelaine. C'était depuis longtemps le rêve de Pauline. L'enfant battit des mains et se jeta dans les bras de son frère. « Sais-tu bien, dit-elle en examinant les armoires de sa famille, que M. de la Tremblay avait fait peindre sur le panneau de la voiture « Sais-tu que tu m'as traité en duchesse ?» C'était un chant d'urgent à trois feuilles de trèfle aux pieds tortillés, l'écu timbré d'une dextre chair, et pour devise ces mots, « Tremulus suo furore minatur ». Pauline appela Richard auprès d'elle et lui pria, en riant, de lui expliquer ce latin. En voyant les armoiries, M. de Beauveillant devint pâle comme la mort. Et durant la promenade, qui fut courte à cause des soirées déjà fraîches, Richard se tint silencieux et visiblement préoccupé. Ses deux amis s'en alarmèrent. Au retour, il courut dans sa chambre et tira de ses papiers l'enveloppe qu'il avait trouvée mêlée aux lettres de sa mère. Il en examina le cachet. Ce cachet était aux armes de la Tremblay. Il regarda la suscription. Il reconnut l'écriture qui l'avait troublée. Ce qui se passa dans son cœur, nul au monde ne le pourrait dire. Il sortit et rencontra Pauline dans le parc. « Et Maurice n'est pas avec vous ?» demanda-t-il d'une voix qu'il s'efforça de rendre calme. « Évariste, répondit la jeune fille, « n'appelez pas ainsi mon frère. Autrefois, je lui donnais ce nom, mais je sais que ce nom réveille en lui des souvenirs douloureux et cruels. » Richard s'éloigna brusquement. Il avait la fièvre, sa tête était en feu. Pâle, froid et terrible comme la statue du commandeur, il entra dans la chambre de M. de la Tremblay, alla droit à lui et, sans préambule, « Reconnaissez-vous cette écriture? Ce cachet est-il à vos armes ?» M. de la Tremblay prit l'enveloppe que lui présentait Richard, l'examina et dit « Oui, cette écriture est la mienne. Ce cachet est aux armes de ma maison. Et maintenant, monsieur, ajouta Richard en tirant de son sein les lignes que Madame de Romeillan avait tracées avant d'expirer, connaissez-vous ces caractères? Est-ce à vous que le mourant adressa ses derniers adieux? Monsieur de la Tremblay prit le papier que lui tendait Richard, et après l'avoir lu à travers ses larmes, il cacha son visage entre ses mains et demeura longtemps, longtemps anéanti sous le regard qui pesait sur sa tête. « Vous êtes devant un fils qui demande compte de la destinée de sa mère, » dit enfin M. de Beaumeillan en croisant ses bras sur sa poitrine. Après quelques instants de silence, « Asseyez-vous, monsieur, » dit M. de la Tremblay, « et veuillez, quoi que je puisse vous faire entendre, m'écoutez patiemment et sans m'interrompre. Lorsque j'aurai parlé, je serai tout à vous. Je me résigne d'avance et sans murmurer à ce que vous exigerez de moi. » Richard prit un siège. Au bout de quelques minutes de recueillement, « Vous n'attendez pas, monsieur, » dit Monsieur de la Tremblay d'une voix altérée, mais calme, que je cherche à me justifier aux dépens de l'infortuné qui n'est plus. Quand la fatalité me jeta sur sa route, Madame de Beaumeillan était aussi pure que belle. Seul, je fus coupable. J'étais jeune et j'aimais. Trop noble pour consentir à concilier son amour avec ses devoirs, trop fier pour se résigner à rougir devant l'époux que j'avais outragé, Madame de Beaumeillan prévint l'arrêt de son juge. Elle se punit elle-même en s'exilant du foyer qui pourtant ne la repoussait pas. En échange des biens que je lui ravissais, que pouvais-je sinon mettre à ses pieds ma vie tout entière? Je l'accueillis dans ma tendresse. Vous semblerais-je moins criminel si, après l'avoir égaré, j'avais fermé lâchement le seul refuge qui le fut ouvert? J'acceptais dans toute leur rigueur les devoirs sérieux et solennels que m'imposait une résolution désespérée. Je ne pense pas, durant près de 10 ans, avoir failli une seule fois à ma tâche. Cette tâche était douce, sans doute. Longtemps, la passion me la rendit légère. Mais la passion n'est point éternelle. Quoi qu'il en soit, je résistais aux sollicitations de mes amis, aux reproches de ma famille. Je criais silence aux voix de l'ambition et, sourd au bruit du monde, oublieux de mon avenir, je continuai de marcher sans faiblir dans la voie funeste où je me trouvais engagé. À vous, enfants, cela doit sembler œuvre simple et facile. Ah, puissiez-vous toujours en juger de la sorte? Si vous interrogez les hommes, tous vous diront qu'il m'a fallu, pour ne pas succomber à la peine, presque conscience et quelque probité. Oh, je ne prétends pas m'absoudre, mais je crois avoir fait tout ce qui est humainement possible pour établir l'ordre dans le désordre et le repos dans la tourmente. Si je n'ai pas réussi, c'est que Dieu ne permet pas que de semblables efforts puissent être couronnés de succès. C'est folie, d'ailleurs, que de vouloir lutter contre tous. La société a des forces vives, des chocs imprévus, des écueils invisibles, contre lesquels, tôt ou tard, la révolte échoue et se brise. Votre père mourut. Vous restiez sans appui. À quelque temps de là, je perdis ma mère. Elle s'éteignit dans mes bras après m'avoir, à son lit de mort, confié la destinée de sa fille. Alors j'entrais dans une vie nouvelle. J'abordais de nouveaux devoirs sacrés, incompatibles avec ce que la passion m'avait suscité. La jeunesse de ma sœur changeait mon attitude vis-à-vis du monde. Je dus me soumettre à l'opinion que j'avais si longtemps bravée et m'imposer une réserve dont j'avais cru pouvoir m'affranchir jusqu'alors. Cette société que j'avais défiée de m'atteindre m'enlaça tout à coup de ses liens. Hélas, que vous dirais-je? Depuis plusieurs années, Madame de Beaumeillan et moi n'avons même plus l'excuse du bonheur. Je m'armais de ce courage et fus impitoyable. L'expérience vous apprendra peut-être que ces liaisons fatales ne se dénouent pas, mais se rompent, qu'on ne les rompt qu'à la condition d'être cruel. Je frappai donc et le coup fut terrible. Mais cependant, descendez dans mon cœur, y trouvez-vous des instincts féroces? Fouillez mon passé, y décrivez-vous une forfaiture à l'honneur? Je vis et votre mère est morte. Mais ce n'est là qu'une question de santé, de force et de tempérament. La fleur que brise l'orage n'accuse pas le chêne qui résiste. Votre droit, vous, est de me maudire, je le sais. C'est votre droit et votre devoir. De tout temps, j'ai senti votre haine. Toujours, je vous ai vu dans mes nuits sans sommeil, pâle et menaçant, assis à mon chevet. Je vous aimais pourtant, je vous aimais sans vous connaître. Autant que j'ai pu, j'ai veillé sur votre abandon. Chaque année, je vous ai rendu votre mère. Jamais je n'offensais vos regards. Je me suis tenu humblement dans l'ombre. Vous ne m'avez jamais rencontré dans votre chemin. Qu'auriez-vous dit, qu'auriez-vous fait, si cédant à des vœux insensés, je n'avais pas craint de vous infliger le supplice de ma présence? Je vous aurais tué, répondit froidement Richard. « Il en est temps encore, » répliqua M. de la Tremblay. « Veuillez seulement m'écouter jusqu'au bout. Quand j'entendis pour la première fois prononcer votre nom dans le monde et que vous m'apparûtes triste, sombre et vêtu de noir, je compris tout et j'entrevis avec effroi la destinée qui vous attendait. Vous étiez sans guide, sans soutien. » À votre insu, je vous suivis d'un pas inquiet. J'étudiais votre mal. Je m'imposais la tâche de le soigner et de le guérir. Je vous confondis, vous et ma sœur, dans le même amour. Vos douleurs ont traversé mon âme avant d'arriver à la vôtre. J'ai porté votre croix. J'ai bu en même temps que vous à la coupe de vos amertumes. Le jour où vous fûtes blessé, Ce n'est point le hasard qui m'a fait vous rencontrer au bois. J'étais aussi bien que vous-même au courant de votre existence. Est-il besoin de vous dire mes angoisses et mes tortures? Le coup qui vous frappa me frappa. Mon sang ne coula pas, mais le vôtre tomba sur mon cœur en gouttes brûlantes. Dieu me donna la joie de pouvoir vous sauver. J'espérais que vous ignoreriez à jamais le lien qui existait entre nous. J'essayais de gagner votre affection. J'y réussis peut-être. Cependant, ma sœur achevait de grandir en grâce de tout genre, et je me disais qu'elle serait l'ange d'une réconciliation mystérieuse, le prix de vos labeurs, la réparation du passé, le gage de l'avenir. Je vous laissais partir, je savais que vous me reviendriez. Richard, vous êtes revenu. J'avais, durant votre absence, préparé ma sœur à vous aimer. Vous avez achevé mon œuvre. J'ai vu l'amour se glisser dans son cœur. J'ai vu le vôtre se relever et prêt à fleurir. Nobles enfants, vous étiez dignes l'un de l'autre. Par quelle fatalité, quand j'allais toucher au but de mes rêves, avez-vous surpris le secret que je croyais enfoui dans mon sein? Oh, je le sais. Mais quoi que décide votre haine, monsieur de Beaumaillon, je suis prêt. Ah, oh, malheureux! S'écria Richard avec un affreux désespoir. Je ne puis vous haïr! Puis, altéré sous le coup des paroles qu'il avait entendues, monsieur de Beaumaillon resta muet. C'était donc là cet homme qu'il avait si longtemps cherché, qu'il avait si longtemps poursuivi de ses imprécations et de sa colère. C'était là cet infâme qu'il avait tant de fois maudit. Richard baissa la tête, et pour la dernière fois il pleura sur sa mère. En perdant sa haine, il avait perdu son amour. Monsieur de la Tremblaye se leva, courut à lui, et voulut le prendre dans ses bras. Mais monsieur de Beaumaillon, le repoussant avec dignité, Monsieur, lui dit-il, vous aviez surpris mon cœur, je le retire. Je ne puis vous haïr, mais je ne puis pas vous aimer. Ma main ne se souvient déjà plus d'avoir jamais rencontré la vôtre. À ces mots, monsieur de Beaumaillon fit quelques pas pour sortir. Évariste se jeta devant la porte comme pour lui barrer le passage. Mais qu'espérez-vous donc, monsieur? Demanda fièrement Richard. Attendez-vous que je consente à vous appeler mon frère, à vous devoir l'amour, le bonheur, la richesse, à vivre avec vous sous le même toit, à mêler mon sang à votre sang et mon existence à la vôtre? Avez-vous oublié qui vous êtes et qui je suis? Voulez-vous que les os de mon père se lèvent pour me maudire? Mais si je m'exilais de votre bonheur, dit monsieur de la Tremblaye, si j'allais loin de vous, pauvre, seul, ignoré, achevez tristement ma vie comme vous avez commencé la vôtre, si vous ne deviez plus jamais entendre parler de cet homme, accepteriez-vous à ce prix la main de ma sœur avec le don de ma fortune? Monsieur de Beaumaillon ne répondit pas. Il se laissa tomber sur un siège, cacha sa tête entre ses mains et se prit à verser des larmes silencieuses. Il demeura longtemps ainsi, tandis qu'Évariste se tenait derrière lui, pâle, muet, immobile comme un coupable attendant l'arrêt de son juge. Enfin, Richard se leva. C'est à moi de partir, dit-il, à moi d'aller vivre et vieillir dans la tristesse et dans la solitude. Depuis longtemps, monsieur, vous m'en avez appris le chemin. Je ne veux pas mêler le nom de mademoiselle de la Tremblaye à ces tristes débats. Cette jeune et chaste créature ne doit point trouver place dans une si lamentable histoire. Continuez de veiller sur elle. Vous avez fait pour votre sœur ce que ma mère n'a point fait pour son fils. Je vous abandonne le soin de l'instruire de mon départ. Consolez-la, s'il en est besoin. Laissez-la m'accuser, plutôt que de donner la pureté de son cœur par des révélations imprudentes. Son cœur est à peine atteint, il se relèvera. Ne demandez pas si je l'aime. Je vous pardonne et ne vous connais plus. » À ces mots, Richard s'éloigna sans que M. de la Tremblay eût songé à le retenir. Il erra toute la nuit dans la campagne et prit, au lever de l'aube, la route de Grenoble, en traversant le parc du château, Éden que lui fermait sa mère. Il aperçut de loin Pauline, qui se tenait à sa fenêtre ouverte, blanche et radieuse comme l'étoile du matin. Il s'arrêta quelque temps à la contempler. Adieu, dit-il, doux rêve évanoui. Adieu, bonheur aussitôt envolé qu'entrevu. Adieu, charmant rayon, le premier et le seul que j'ai vu briller dans ma sombre vie. Soyez béni, jeune âme. Sois béni, aimable et noble cœur, sur lequel mon cœur s'est posé un instant, comme un oiseau fatigué sur une branche en fleurs. Pauline l'aperçut à travers le feuillage éclairci. Elle agita son mouchoir, sans se douter, hélas, que c'était un éternel adieu. Richard la salua d'un pâle sourire et disparut bientôt au détour d'une allée. Ces deux enfants, que le ciel semblait avoir créés l'un pour l'autre, ne devaient plus se revoir en ce monde. Richard retourna au château de Beauméant pour y vivre pauvre et solitaire. Il y entra gravement, sans amertume, sans haine et sans colère. À l'insu de lui-même, un travail étrange s'était fait en lui durant son absence. En rentrant dans cette sombre demeure où il avait grandi, la tête et le cœur uniquement remplis d'un poétique amour pour sa mère, il découvrit que cet amour était mort, ou pour mieux dire, qu'il avait changé de place. À peine arrivé, il alla droit à la chambre qu'avait habitée son père. L'épée du comte de Beauméant était restée suspendue dans l'alcôve. Richard la prit entre ses mains, et après l'avoir contemplée avec respect, il la baisa religieusement sur la garde. Jules Sandeau.